Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau feuilleton. Alors, c'est un feuilleton que j'ai écrit il y a quelques années, toujours pour mon ami Pochet, et que je lui envoyais par la poste. Alors, dans la lecture, vous verrez, il y a plein de références à ce monsieur. Et ce feuilleton est un petit peu particulier parce que, en fait, au départ, ce n'est pas une histoire. Au départ, c'est une série de jeux de mots. J'avais auparavant écrit un petit texte parlant d'un peuple hypothétique et inconnu, et pour cause, puisque je l'avais inventé. Qui s'appelait les mots, et ça donnait des jeux de mots à partir de mots. La moutarde de Meaux, par exemple, a été inventée par le peuple Meaux, c'est une évidence. Et c'était un tout petit texte, mais ça m'a donné une grande idée, à savoir écrire l'histoire des Taux. Les Taux sont un autre peuple que vous allez découvrir. Et ce feuilleton est donc composé à partir de jeux de mots que j'ai reliés entre eux par une histoire qui m'est sortie de la tête comme ça un jour. En plusieurs jours quand même. Mais toute l'histoire était donc de relier des jeux de mots entre eux. Donc là, des jeux de taux, on va dire. Alors, je vous propose, on va faire un petit concours. J'en ai parlé à notre chère directrice d'antenne. Et le premier qui arrive à nous dire le nombre de jeux de mots basés sur les taux dans l'émission d'aujourd'hui, gagnera un t-shirt. Ouais, un t-shirt Radio Larzac pour celui ou celle, bien sûr, hein, c'est évident, ne soyons pas sexistes, qui arrivera à déterminer le nombre de jeux de mots complètement vaseux qu'il y a dans cette émission. Donc, ce feuilleton s'appelle, je ne sais pas combien d'émissions ça va faire, un certain nombre d'émissions, un nombre entre un et plusieurs, par exemple. Et il a un titre, figurez-vous, qui est « On est plus tôt que tu ne penses ». Ce premier épisode a pour sous-titre « Dans lequel notre héros entre et sort ». L'autre jour, j'étais à Rodez, cité catholique aveyronnaise depuis toujours, ennemi juré de cette bonne ville de Millau, quand j'eus l'œil attiré par une étrange enseigne sur le trottoir en face. En gros, au-dessus de la porte d'une étrange et vieille et triste boutique, un grand panneau jaune portait l'inscription « Chez Antonin ». Moi, je crus tout d'abord qu'il s'agissait d'un de ces bars démodés où on peut entendre des voix éraillées par la Gauloise demander « Hé, Antonin ! Hé, tu me mettras la même chose, hein, tu veux ?» Je traverse la rue, alléché, et en mettant le pied sur le trottoir, je m'aperçois de mon erreur. Devant moi et la boutique, il y a au sol un de ces panonceaux à double face que les commerçants utilisent couramment et sur lequel je peux lire « Art ». Ah, je me laisse séduire par le jeu de mots chez Antonin Artaud. Ah, à Rodez, ça ne manque pas d'esprit quand même. Alors curieux, j'entrais. La boutique sombre, petite et caverneuse, était encombrée d'objets les plus divers, dont l'usage incertain ne manquait pas d'ajouter une note d'exotisme à l'ensemble. Au bout d'un moment, sortis de je ne sais d'où, un étrange petit bonhomme au teint olivâtre, vêtu d'une blouse grise, une sorte de petite toque ridicule posée au sommet de son crâne dégarni. Ah, bien sûr, il avait le dos rond, des pantoufles aux pieds et une paire de besicles par-dessus lesquelles son regard brillait. Et ces besicles étaient posés sur son nez, long et crochu. Ah, mais ceci, vous l'avez déjà deviné, car comme moi, vous avez lu Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Harry Dixon. Comme moi, votre sang policier n'aurait fait qu'un tour. Une petite lampe se serait allumée dans le brouillard qui vous occupe habituellement l'esprit quand il s'est présenté. Antonin, pour vous servir. Il vous aurait demandé si vous cherchiez quelque chose, s'il pouvait vous être utile de quelque façon, et vous auriez répondu « Oh, oui, oui, si ça ne vous embête pas. Qu'est-ce que l'art tôt, exactement ou quelque chose de ce genre, quoi. » Vous l'auriez vu sourire, et bien sûr, comme vous l'avez déjà deviné, il frottait ses mains aux longs doigts fin, aux ongles d'une longueur inaccoutumée, de ce mouvement inconscient qui rappelle celui si célèbre de Ponce Pilate, vous voyez ? Oh, en fait, il n'y a plus d'art tôt, il est mort. C'était une très ancienne civilisation d'avant, c'est dire, hein. Mais il existe encore de leurs descendants dégénérés quelque part en Asie centrale. Le tocharien est une langue qui est encore parlée dans certaines régions du Kurdistan et dont on a retrouvé quelques textes. Et il se dirigea vers les fins fonds de sa boutique sans plus s'occuper de moi. Je restais quelque temps à regarder de près quelques objets quand il revint avec un étrange registre qu'il posa sur le coin du comptoir déjà fort encombré. Entre les pages de ce vénérable volume étaient insérés des documents plus vieux encore. D'un tiroir, il tira des plaquettes faites d'une sorte de pierre où étaient gravés des signes étranges et mystérieux. « Voilà !» dit-il en posant devant moi un cahier qu'il tira de l'une des poches de sa blouse. Alors, évidemment, comme moi, vous auriez pris le cahier, vous l'auriez ouvert et en le feuilletant, vous auriez compris que c'était là la traduction des divers documents qu'il vous avait présentés avant. Comme moi, vous auriez souri et vous lui auriez tendu le cahier. Comme moi, vous auriez été étonné de voir qu'il ne faisait aucun geste pour le reprendre. Toujours son étrange et inamovible sourire aux lèvres. Comme moi, vous auriez insisté du geste. Et quand il vous aurait pris par le bras avec une force dont on ne l'aurait pas cru capable, eh bien, comme moi, vous n'auriez pas résisté. Comme moi, vous vous seriez retrouvé sur le trottoir sans savoir que penser. Vous auriez sans doute, comme moi, haussé les épaules, et vous seriez allé retrouver vos ouillères campagnards que vous êtes, contrairement à moi. À la tombée de la nuit, je me suis installé dans mon fauteuil régence, un châle et un chat sur les genoux. Après avoir, comme Sherlock Holmes, sniffé une ligne de coke, je bus un triple whisky pour rendre hommage à MacHammer, tout en bourrant une de ces pipes dont Maigret ne se séparait jamais. Tout était prêt. Je n'avais plus qu'à laisser mon intuition me guider. Je commençais par étudier le cahier lui-même, mais il n'avait et ne pouvait avoir rien de remarquable, car je savais qu'il provenait du Menepruit, qui n'était, lui, pas très éloigné de chez Antonin. C'était marqué sur l'étiquette qui était restée au dos. Et la veille, j'étais moi-même passé devant le magasin en approchant de la boutique Arto. Ce cahier était divisé en deux parties distinctes. La première concerne la traduction des tablettes et se rapporte à la cosmologie Tau. La seconde, la traduction des autres documents qui, eux, ont un rapport avec la vie quotidienne du peuple Tau, même si celle-ci, comme celle de tous les peuples primitifs, est fortement imprégné de religion. Je me suis d'abord longuement attardé sur les reproductions photographiques des divers documents. Outre les écritures, figuraient aussi des sortes de dessins, représentations de personnages et d'animaux, une sorte de hiéroglyphes asiates. Sur l'une des plaquettes apparaissait un chat. Mais il ne ressemblait à aucune des représentations de chats que j'avais pu voir jusqu'alors. Et ce chat, j'en étais sûr et certain. J'étais sûr et certain de l'avoir déjà vu quelque part. Mais où ? Là était toute la question. Où notre héros a-t-il déjà vu ce chat ? Quelles sont les révélations contenues dans ce cahier ? Vivrons-nous assez longtemps pour connaître la fin de cette histoire ? C'est ce que vous saurez en écoutant le second épisode de notre grande fresque intellectualo-policière « On est plus tôt que tu ne penses ». Ah, je sais, vous l'attendiez avec impatience, ce deuxième épisode de notre nouveau feuilleton. On est plus tôt que tu ne penses. Alors installez-vous confortablement. Hein, tenez, c'est pas tous les jours fête. Allez, un petit pastis ou mieux, tiens, un petit whisky. Hein, ce sera pas de trop. Allez, laissez-vous faire. Ah ouais, je sais, c'est une entorse à votre régime habituel, hein ? Ah, mais une fois n'est pas coutume. Ah, mais à propos de coutume, souvenez-vous de la fin du premier épisode. Et ce chat, j'étais sûr et certain de l'avoir déjà vu quelque part. Mais où ? Là est toute la question. Et dans ce deuxième épisode, qui a pour sous-titre « Où notre héros avance lentement mais sûrement », peut-être même que nous allons l'apprendre. Lorsque je m'éveillais, il était déjà tard. Sans doute le whisky. Je m'étais endormi sans me rendre compte, les pieds sur le bureau, le chapeau sur les yeux. Les cloches que j'entendais résonner toutes proches parvenaient de l'église. Ouais, bah je me disais bien aussi que ça pouvait pas être le whisky, hein. Enfin, pas à ce point. J'étais courbaturé de partout. Ah, c'est plus de mon âge, hein, ce genre de position pour dormir. Ah, c'est bon pour le héros détective américain. Ah, j'en ai eu immédiatement une autre preuve. En plus du mal à la tête, du mal dans toutes les articulations, eh ben j'avais soif. Hein. Ah, je me suis donc servi un fond de whisky et je l'avalais. Ah, quand je pense que Mackheimer, James Bond et autres SAS font ça toutes les 6 pages en moyenne, moi j'en frémis. Tiens. Ah, je me suis étranglé sous la brûlure de l'alcool, j'ai toussé, craché. Ah, il était temps de reprendre l'enquête. D'autant que, dans mon sommeil embrumé, émergeaient les parcelles d'un rêve. Un citronnier, une arabesque. Oh, mais bon sang! Oh, mais bon sang! Mais c'est bien sûr! En Andalousie! C'est là que j'avais déjà vu cette façon de représenter les chats. À l'Alhambra de Séville, pour être précis. Un château en Espagne. Mais, ou n'était-ce qu'un rêve? Alors je repris les cahiers d'Antonin, et encore à moitié endormi, je feuilletais celui qui traitait des meurtres. Je ne sais pourquoi, j'eus immédiatement envie de saucisses. Avec un petit coup de rouge, hein, ça peut pas faire de mal. Ah, bien sûr, là, du coup, je ressemblais moins à Mackheimer. Mais bon, tout en mastiquant, je lisais distraitement, de-ci, de-là, buvant un coup, souriant à une phrase, quand d'un coup, je tombais sur la traduction des us et traditions tôt pour les demandes de mariage. Alors voilà. Sachez que quand un taux est amoureux, eh bien, il se comporte à peu près comme tous les amoureux du monde. Il a l'air bête quand il regarde la chair tendre de sa chair étendre. Il répond oui à tout ce qu'elle dit et il lui fait des petits cadeaux. Ah, si l'Indien d'Amérique, lorsqu'il fait sa demande, met un soir les cadeaux qu'il offre devant le tipi de son futur beau-père, et que, s'il est accepté, au matin, les cadeaux ont disparu, eh bien, il en est presque de même chez les taux. Sauf qu'au lieu et place de cadeaux, le taux amoureux va dans la forêt, choisit un arbre, le coupe, les branches, en fait un grand pieu qu'il scute amoureusement pendant des jours et des jours. Ça prend des jours et des jours parce qu'il scute ce grand pieu avec son lag yol. Oui, c'est un mot qui signifie couteau en taux. Lorsqu'il est content du résultat, il revient au village et plante ce pieu sculpté devant la hutte de sa dulcinée. Thème. Telle est la signification de ce rite. Et si la jeune fille rejoint tôt au pieu, cela signifie que sa demande en mariage est acceptée. Hein. C'est une belle histoire, non? Je laissais de nouveau mes pensées vagabonder tout en parcourant le lexique qui finissait le cahier. Ah, c'est drôle, ça. Bof, en tocarien, le taux moderne, si je puis dire, signifie « non ». Mais selon comment il est prononcé, il peut tout aussi bien signifier « rien à foutre » ou voir en chiracain moderne « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ah. ». Et vous me croirez si vous voulez, d'un coup, d'un seul, une petite lampe se mit à clignoter dans le phylactère qui surplombe sans cesse mon crâne, à un point que c'en est agaçant. « Eureka !» aurais-je dit si juste été Archimède. Mais comme je ne suis que moi et que vous en êtes un autre, je me contentais de filer tel Spider-Man jusqu'au WC. Et là, après avoir satisfait une envie bien compréhensible, je cherchais vainement, pendant de longues minutes, ce fichu « Salut les copains » dont je me régale dans ce genre d'endroit. J'ai fini par le retrouver dans la pile de Mickey de mon adorable fils, qui ne paie rien pour attendre, et je pus constater que ma mémoire ne m'avait pas trahi. Alors, qu'allons-nous découvrir dans un « Salut les copains » vieux de presque 40 ans ? Et à propos, la taille du pieu a-t-elle une incidence sur le choix de la jeune fille ? Et que vient faire un phylactère dans cette histoire ? Ah, c'est ce que vous saurez peut-être en découvrant le troisième épisode de notre feuilleton préféré « On n'est plus que tôt que tu ne penses ». Alors, je vous rappelle également qu'en plus du plaisir de l'écoute de ce feuilleton, nous vous offrons la joie de ne pas avoir à recourir à des procédés frôlant la malhonnêteté, à changer de prénom ou autre ruse véhiculée pour recevoir la suite des aventures de votre héros favori. Non, non, avec Vilain Mégalo Productions, tout est gratuit. Alors n'hésitez plus, abonnez-vous. Lisez bien les petites lignes du contrat, hein. C'est marqué en bas, il y a un petit astérix. En contrepartie, l'abonné s'engage à ne jamais critiquer l'auteur. Le mot « critiquer » étant bien sûr pris au sens péjoratif. Toute critique sincère étant bien entendu la bienvenue. Lorsqu'il vous en avez l'occasion, l'abonné glissera dans la conversation des compliments sur l'auteur. La modestie de celui-ci dut-elle en souffrir ? Toute initiative, comme telle une statue, une renomination de rue, d'avenue ou de boulevard, dans le but de reconnaître le génie de notre auteur, sera accueillie avec joie. Et voilà ce que vous attendiez, cher auditeur. Car oui, vous êtes le seul et unique auditeur abonné à la publication originale de notre grand feuilleton « On est plus tôt que tu ne penses ». Alors imaginez qu'un jour notre auteur, comme il le mérite, devienne célèbre. Hein ? L'exemplaire unique de ce feuilleton que vous aurez entendu vaudra une fortune. Quelle chance, cher abonné ! Votre souvenir vaudra une fortune. Mais peut-être voudriez-vous alors, au lieu de vendre ces chefs-d'œuvre que vous aurez en mémoire pour vous acheter égoïstement une villa avec piscine, un appartement en ville, une limousine, soirée au Crazy Horse, une barrique de Château Lafitte ou un abonnement permanent à Canonel Plus, ou voir la photo grandeur de Marilyn, ou l'équipe du PSG et de son capitaine, et toutes ces petites bricoles dont vous autres Français d'en bas ne pouvons avoir qu'une vue lointaine. Peut-être choisirez-vous de continuer à vivre misérablement mais riche d'avoir eu accès aux révélations contenues dans ce feuilleton. Voilà. Ceci, nous le saurons en son temps. En attendant, voyons ce qui se passe dans le troisième épisode de notre grand feuilleton. Alors là, normalement, j'avais prévu une musique de générique style La Guerre des Étoiles, mais en mieux, vous voyez. Mais comme on est une radio pas très riche, on va se contenter de pâcher le bel. Troisième épisode de On est plutôt que tu ne penses, où notre héros ne fait pas grand-chose. À l'heure où vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de vous raconter, il ne se passe strictement rien. Notre héros s'est endormi, et je ne pense pas que l'on puisse un tant soit peu compter sur lui pour nous dire ce qui s'est passé entre-temps. Mais il y a ce fichu cahier posé sur une table. Hein ? Que diriez-vous si on y jetait un coup d'œil ? Alors là, si on était dans une radio très riche, la musique reprendrait, et une sorte de fondu enchaîné nous mènerait à ce qui suit. À partir de maintenant, vous devez imaginer qu'à la place de ce cahier, enfin non, que vous avez ce cahier d'écolier dans les mains. Il est rempli de gribouillis, de petits dessins et autres primitives transcriptions sur les pages de gauche et leur soi-disant traduction sur les pages de droite. Hein ? Vous remarquerez au passage que, comme par hasard, le primitif est à gauche et la connaissance à droite. Mais enfin bon. Le tout est tracé à la plume sergent-major et avec une encre comme celle que vous aviez dans votre encrier de la classe de cours élémentaire première année. Quelques taches par-ci par-là, l'écriture est haute, penchant à droite, comme ça. Et on peut lire « Le territoire des taux est l'atoll ». Les taux se divisent en deux catégories, les maigres et les gros. Les maigres mettent les gros en prison, ce sont les taulards qui travaillent pendant que les maigres ne font rien d'autre que de les surveiller. Alors au bout d'un certain temps de ce régime, les maigres sont devenus gros et les gros ont maigri. Alors il suffit alors d'inverser les uns avec les autres et ainsi de suite. En bref, les taux démontrent que d'un univers carcéral peut être le facteur d'égalité absolue. Les taulards sont attachés deux par deux à la manière des galériens. Et la principale activité des taux, c'est-à-dire celle des taulards, puisqu'il faut vous répéter que les taux maigres ne travaillent pas. Et je vous rappelle que le travail, c'est la santé, et que la santé, c'est bien connu, c'est la prison. Il est clair, en tout cas, pour les taux et nos analystes financiers, que le travail, c'est de l'argent. Et en matière d'argent, on voit tout de suite l'intérêt des gros taux. Hein ? En fait, le... Enfin, eh. Comment ça, eh ? Ah oui. Voilà. Faut pas oublier quand même que tous ces textes concernant les taux concernent en fait le... Les taux sont les... Ah, excusez-moi, mais c'est très compliqué. Les taux sont les ancêtres des tocariens qui, eux, voilà, parlaient le tocarien en Asie au 1er siècle après Jésus-Christ. Hein ? Voilà. La principale activité des taulards était de fabriquer des grands récipients qui servaient de monnaie d'échange avec les peuplades voisines. Il s'était fait la spécialité de ces grands récipients de bois, cylindriques, renflés au milieu, faits de douves assemblées et cerclées et fermées par deux fonds de bois. Ah, on imagine le travail que ça représente. Et les taulards maigrissaient rapidement. Et quand l'heure était venue, on les libérait. La cérémonie de libération se déroulait au cri de « Laissez partir nos taux, nos liés !» À la suite de quoi, ceux qui étaient dedans sortaient et ceux qui étaient dehors entraient. Alors on échangeait alors leur badge de prisonnier contre un badge de taux libre et vice-versa. C'était un moyen de contrôle simple et efficace, mais quand même la grosseur était le critère le plus simple. Enfin tout au moins à la période d'échange. Car évidemment il arrivait un moment où les taux matons étaient devenus aussi gros que les taulards et les taulards aussi maigres que les taux matons. Et quand quelques tricheurs qui prétendaient être des faux gros, un séjour en prison en faisait des vrais maigres. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, moi pas. La plaquette, c'est très scientifique ce truc, la plaquette R126 Kajenerov raconte une anecdote fort intéressante d'ailleurs à ce sujet. Le seul moment où un taux pouvait envisager une évasion était, nous l'avons vu, ces quelques jours où les poids s'équilibraient. Hein ? Il s'agissait qu'un taux libre prenne la place d'un taulard et ni vu ni connu, je t'embrouille, hein ? Le taulard venait de s'évader et pouvait regrossir jusqu'au prochain emprisonnement. Mais quel taux libre serait assez bête pour entrer en prison avant l'heure, hein ? Et pourtant, un jour, on découvrit une évasion. Un prisonnier s'était évadé en se procurant un faux badge de taux libre. Il avait bénéficié de la complicité d'un étranger pas de chez nous, qui, grâce lui aussi à de faux papiers, avait pris la place d'un gardien. Il leur avait suffi d'échanger leurs images sur les cartes pour accomplir leurs méfaits. L'étranger pas de chez nous avait accepté de prendre la place du taulard en espérant devenir plutôt un taux libre. Mais c'était sans compter sur la mentalité autarcique des taux. Hein, quand un taux trouve des étrangers sur son territoire, un taux les rend à leur pays. Un taux les rend à leur... oui. En attendant d'être envoyés, ces étrangers pas de chez nous étaient confinés dans un quartier de la ville où ils n'avaient droit ni d'entrer ni de sortir. Des gardes étaient placés aux endroits stratégiques avec ordre de massacrer si nécessaire. Et toutes les heures, l'officier de garde visitait ses sentinelles et les encourageait dans leurs tâches en leur disant « Fais le guet, taux !» Pour en revenir à la plaquette R126 KJ9 et à l'évasion qu'elle raconte, le titre en est assez racoleur, et comme c'est assez courant chez les taux quand il s'agit d'étrangers. Le titre était « Il s'évade grâce aux faux taux matons ». On peut lire sur une autre plaquette fort joliment décorée de paysages « Faux taux et images du monde ». Alors, à ce moment-là, là, dans l'histoire, si on avait eu les moyens, plutôt que Pachelbel, là, on vous aurait diffusé une musique style la cinquième de Beethoven, mais plus lente, plus douce, jouée à l'harpe. Voilà, cette musique viendrait frapper le tympan de votre oreille droite ou gauche, enfin, c'est selon votre position par rapport à votre poste de radio. Et à moins que vous ne soyez comme moi en voie de surdité et que le son aigrelet de la harpe ne fasse vibrer cette membrane qui a tendance à durcir avec le temps, et auquel cas c'était vraiment pas la peine de se casser le tronc à choisir une quelconque musique d'accompagnement. Alors on va dire qu'à ce moment, il va se passer un truc là qui va faire que le héros se réveille, hein. Voilà, vous imaginez, il se passe un truc et le héros se réveille. Diantre, ah, je m'étais endormi. Il se redresse alors et feuillette le salut les copains qui étaient tombés sur ses genoux. Est-ce que nous allons enfin pouvoir savoir ce que contient ce bon Dieu de journal, hein ? Et pourquoi les cochontaux sont-ils stressés, hein ? Et qu'en est-il de l'éducation sexuelle des taux ? Et en quoi cette histoire peut-elle bien être intéressante? Ah, c'est à ces questions que répondra peut-être le prochain épisode de notre saga. On est plus tôt que tu n'en penses. Ah, cher auditeur, quel plaisir de vous retrouver. Quel plaisir de voir votre œil s'allumer quand vous aurez réussi à entendre ce texte tout en regardant par-dessus ces lunettes qui ne vont plus à votre vue. Ah, je sais qu'une partie du plaisir que vous éprouvez à écouter ce feuilleton, c'est avant tout parce que vous les recevez, écoutez, et tout ça gratuitement. Ah, je me permets donc, afin de vous mettre dans les meilleures conditions pour profiter à plein du plaisir de nous écouter, de vous révéler que votre abonnement gratuit vous coûtera désormais 2 fois moins cher. En effet, vous avez participé d'office au grand tirage au sort réservé à notre auditeur préféré et à votre grand étonnement, j'en suis sûr, vous en êtes le gagnant. Certes, ce lot exceptionnel ne vaut pas un week-end à Corfou, ou une semaine à Tamaran Rasset, ou un mois à Bouler les Trous, comme le proposent si généreusement nos concurrents. Mais après avoir gagné, vous avez gagné. Et gagner, c'est gagner, hein. Il vaut mieux gagner un petit peu chez nous que rien chez les autres, quand même, hein. Et comme on dit, un beau tien vaut mieux que deux tuleras, hein. Jamais, jamais, ils vous ont rien fait gagner, les radios concurrentes, hein. Ah, les salauds, hein. Ah, les salauds. Ah, avec une majuscule, salauds. Alors, ces salopards de concurrents qui font rien qu'à nous prendre les clients du marché. Ah, ils peuvent en proposer, hein, des voyages au Maroc, des voyages en Tanzanie orientale ou aux îles Cacaboudin, hein. On les gagne jamais, leurs concours, hein. Moi, par exemple. Un jour, je me suis laissé tenter, j'ai rempli un de ces bêtes bulletins en réponse à Trapnigo, et ben j'ai pas gagné. Rien du tout. J'ai rien gagné du tout. Et vous êtes là, derrière votre poste, vous n'avez même pas eu à remplir le moindre bulletin, même pas eu l'angoisse d'attendre le résultat du tirage au sort, vous n'avez pas risqué d'arrêt cariate en voyant le montant faramineux du lot que vous venez de gagner, et vous iriez vous plaindre? Ah non, c'est pas comme ça avec nous, nom d'un petit bonhomme. Ah, chez nous, quand vous êtes auditeur, vous êtes abonné. Vous avez le droit de nous écouter, de gagner nos concours, d'apprécier nos publications et même de nous faire part de vos suggestions. Ah oui. Ouais, à ce sujet, nous avons le plaisir de vous annoncer, d'ailleurs, la toute prochaine création d'une rubrique « Courrier du lecteur ». Courrier dans lequel nous nous proposons de répondre aux questions qui nous seront posées à nous. Et tiens, à titre d'exemple, voici une question que nous aurions pu recevoir et la réponse que nous aurions fait dans ce cas. Question. Est-ce qu'on va enfin savoir ce qu'il y a dans le « Salut les copains » ? Eh bien, réponse. Cher auditeur, nous comprenons parfaitement dans quel état peut vous mettre cette interrogation lancinante. Ah, tout le talent de notre auteur est là. La lente distillation des indices qui affûte l'instinct tranchant qui rampe en chacun de nous. Vous ne pouvez plus vivre comme avant. Désormais, salut les copains ne sera plus pour vous un titre désuet d'une publication d'un autre âge. Quand vous saurez, car vous allez savoir, Salut les copains sera pour vous cette revue que vous auriez dû lire quand il en était encore temps. Ah, je ne voudrais pas vous affoler, mais vous risquez de le regretter. Ou alors nous aurions pu vous faire cette réponse. Cher auditeur, j'en sais rien. Mais je n'en sais pas plus que vous. En effet, notre auteur, qui devait nous faire parvenir hier soir les feuillets de cette lamentable histoire, nous les a envoyés par erreur à l'un de nos concurrents, et je ne saurais trop vous conseiller d'abandonner l'idée de savoir quoi que ce soit à ce sujet. Mais en attendant ce plaisir nouveau, nous allons vous laisser le plaisir de retrouver notre grand feuilleton « On est plutôt con que tu ne penses ». C'est donc le 4e épisode qui a pour titre « Où notre héros fait des déductions étonnantes ». Il feuilletait fébrilement, ce vieux « Salut les copains », cette revue dont le contrepaix odorant nous aida à sentir l'atmosphère musicale des années 60. Il était sûr que c'était là. Il tournait les pages de plus en plus vite et bien sûr, il dut recommencer plusieurs fois la manœuvre avant de trouver la bonne page. C'était celle où était ouverte la revue quand il s'en était saisi à son réveil. « c'est là !» répéta-t-il en frappant cette malheureuse revue du dos de la main, qu'il n'atteignait pas, évidemment, puisque avec celle qu'il tenait, il ne pouvait pas frapper. Bon, enfin bref. Il la reposa sur le canapé, marcha en rond quelques tours, se servit un verre, le but cul sec et dit en regardant sa montre: « Bon, eh ben c'est pas tout ça. » Nous tournons le dos. Il se dirige vers la cuisine, histoire de se mitonner un petit tanka. Il siffle un air guilleré, vaguement moyenâgeux, mais interprété façon 19e. La scène n'ayant strictement aucun intérêt, vous pouvez la couper au montage. Enfin, néanmoins, ce serait dommage parce que les héros ayant la fâcheuse tendance de ne pas vivre comme nous autres, pauvres mortels, c'était une occasion unique de suivre pas à pas la vie quotidienne de cette minorité, les héros. À toute fin utile et pour ne pas trop retarder ce qui va suivre, disons que pour cette fois, il va se contenter d'absorber un sandwich fromage, camembert pour être précis, accompagné de l'inévitable verre de Corbière Domaine Isabelle, avec le propriétaire duquel il venait de signer un contrat publicitaire. Et pendant toute cette scène d'ailleurs, votre œil devra rester sur l'étiquette de la bouteille. Hein, je vous demande. Je vous conseille d'ailleurs même de manger vous-même un sandwich afin de respecter la durée de l'action, afin de satisfaire au terme du contrat publicitaire signé avec le propriétaire du Corbière Domaine Isabelle, dont vous pouvez acheter les meilleures bouteilles chez le dit propriétaire. C'était une pub, voyez. Bon, alors, poursuivons notre héros. « Ah, ça fait du bien où ça passe !» dit-il avant d'éructer. Oh. Hein, comme quoi, hein, quand on les surprend dans le civil, les héros, ah, c'est pas ce qu'on croyait. Enfin bon, attention, ça devient intéressant. « Ah, je m'étais pas trompé !» dit-il assez fort pour que vous puissiez l'entendre. Et s'asseyant alors à califourchon sur la chaise qui vous fait face, il plante ses yeux dans les vôtres. Alors heureusement, la surprise vous fit reculer la tête parce que sans quoi vous eussiez pris dans l'œil de gauche la pointe de son index adressé. Pardon, s'excusa-t-il, je ne voulais pas vous aveugler mais au contraire éclairer votre lanterne. Il esquisse un sourire, semblant attendre une réaction de votre part. Au bout d'un moment, comme vous ne riez toujours pas, il se gratte la gorge et enchaîne. Alors, comme je vous le disais à la fin du second épisode, comme vous tendez les bras là pour saisir ce merveilleux cahier qui ne vous quitte jamais, non, vous dit-il. N'allez pas vérifier, c'est pas la peine. C'est vexant, hein, cette façon que vous avez tout de mettre en doute. Et puis, doctoral, il reprend. À la fin du second épisode, je constate que ma mémoire ne m'a pas trahi et que c'est bien dans « Salut les copains » que j'avais lu ce qui venait de me revenir en mémoire au moment où j'ai été interrompu par le, générique de fin, vous voyez ? Bon, faut suivre un peu quand même. Alors, pour le troisième épisode, ils n'avaient pas d'argent pour me payer. Alors, j'ai juste fait une figuration. Et nous voilà dans le quatrième épisode, qui, lui, est publicitaire, et dont on m'a demandé de faire à titre gratuit, étant donné que le nombre d'abonnés... voilà, vous savez tout. Ah non, pas de ça avec moi, vous dites, vous. Et là, vous avez empoigné notre héros par le devant de la chemise, hein, par le callback, auriez-vous dit. Voyez, l'image évoque un petit peu Obélix demandant un renseignement à un légionnaire romain, si vous voyez ce que je veux dire. Le résultat en est d'ailleurs à peu près le même, puisque notre héros s'empresse de dire vite et fort « Je vais parler, oui, je vais parler, mais posez-moi par terre, voilà, lâchez-moi et asseyez-vous. » Et en marmonnant des « c'est pas parce qu'on paie pas qu'on n'a pas de droit dans votre barbe », vous vous rasseyez et vous finissez par accepter le verre de Cormière Domaine Isabelle qu'il vous sert en prenant soin d'exhiber l'étiquette face à la caméra. C'est alors qu'il vous raconte que dans ce numéro de « Salut les copains », il y a une interview d'un des chanteurs à la mode à cette époque. Alors jusque-là, rien que de très normal. Ce qui l'est moins, c'est qu'à une des questions posées par l'intervieweur, le chanteur répond « bof ». Ah ben, apparemment, cette révélation ne vous fait pas le moindre effet. Vous semblez, là, à tône, à attendre la suite. Du coup, notre héros reprend du poil de la bête, un verre de vin et la direction des opérations. Cabot comme pas, hein, il se met à marcher de long en large en faisant de larges gestes, ce qui a pour effet de vous agacer. Et comme il s'en aperçoit, et ne voulant pas risquer de se retrouver à nouveau gigotant à un pied du sol, il se rassoit en face de vous et se met en devoir de vous éclairer. C'était ce bof. C'était la première fois que dans une revue, une radio, une télévision, on lisait, on entendait ce mot « bof ». Hein ? Un mot, je vous l'ai expliqué à la fin du deuxième épisode dans le carrier du vieil Antonin, « bof » qui en tôt signifie « non ». Voilà. Enfin, à peu de choses près, hein, ça signifie autre chose si... Enfin, vous souvenez-vous ou réécoutez le deuxième épisode, enfin, suivez-moi bien. Ce chanteur parle tôt en disant bof. Et il a en plus le teint olivâtre. Et quand on lui demande « Comment allez-vous prendre un pseudonyme, Richard ?» Il répond « Oui, je vais prendre un pseudonyme, Richard Anthony. » Richard Anthony. Hein ? Personne ne peut raisonnablement penser que c'est dû au hasard. Ah, je suis persuadé que les taux sont parmi nous. Ils sont nos envahisseurs. Alors, nous serons leur David Vincent. Et à la fin de cette dernière phrase, un tantinet mélodramatique, il se détourne et sans plus s'occuper de vous, il décroche le téléphone et compose un numéro. Alors, à qui notre héros téléphone-t-il ? Hein ? Et à quel tarif peut-on boire une bouteille de Corbière Domaine Isabelle ? Comment retrouver la piste des taux ? C'est ce que vous finirez par apprendre en écoutant les épisodes qui vont suivre. Mais pour vous faire patienter et fêter encore une fois avec vous votre victoire à notre merveilleux tirage au sort, nous allons vous faire la faveur d'une démonstration d'humour tôt. Un concours où il y avait comme premier prix un lingot d'or. Eh oui, un lingot d'or. C'est un taux difforme. Pour être précis, il possédait deux excroissances cornées qui lui poussaient sur l'appendice nasal. C'est donc ce taux difforme qui gagna. Le jour de la remise des prix, on eut droit au dialogue suivant, ainsi que ce qu'a tous les flonflons de rigueur dans ces cas-là. J'ai le plaisir d'accueillir parmi nous le gagnant. Vous le connaissez tous, c'est le Torino.
Oui, enfin, c'est un surnom.
Ça, c'est ce que dit le gagnant en caressant ses cornes.
C'est un surnom, c'est parce que...
Oui, on sait, dit très vite l'animateur pour détourner la conversation. Puis il ajouta, et ça vous a pas surpris d'avoir gagné ?
Alors l'hôte, ponctuant de gestes expressifs le laconisme de ses paroles, prononça « Allez, Torino, lingot logique !» Oui, bon, eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous retrouverons nos taux dans la prochaine émission. Voilà, nous espérons vous retrouver, que vous avez tout compris et que vous en comprendriez bien plus dès le prochain épisode de ces passionnants feuilletons « On est plus tôt que tu ne penses ». En attendant, je dis un grand merci à Théo qui toutouille les boutons derrière la vitre et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.